Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Amos 1, 1 et 2. Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, « De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il donne de la voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. » Amos 2, verset 6. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont voulu, ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils convoitent jusqu'à la poussière de la terre, qui est sur la tête des indigents. Ils violent le droit des humbles. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils ont mis à l'amande. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, moi je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazéréens. N'est-il pas ainsi, fils d'Israël, oracle de l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Nazéréens. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai sur place, comme écrase un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui est vigoureux ne pourra pas déployer sa force, et le guerrier ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a le pied agile n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, oracle de l'Éternel. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, Israélites, sur toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous demanderai compte de tous vos errements. Chapitre 4, verset 1. Écoutez cette parole, vache de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les indigents, qui écrasez les pauvres, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Versets 12 et 13 du chapitre 4. C'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui forme les montagnes et crée le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Chapitre 7, verset 12. Amatsia est un prêtre, donc dans le royaume du Nord. Amatsia dit à Amos, visionnaire, va-t'en, enfuis-toi dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Amos répondit à Amatsia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis bouvier, je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Et chapitre 9, versets 11 et 12, pour terminer, on parle de la restauration. En ce temps-là, je relèverai la cabane chancelante de David. J'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, oracle de l'Éternel qui accomplit tout cela. Mais j'aimerais vous lire un autre texte, cette fois-ci encore, dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 5, les versets 1 à 6. À vous maintenant, les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans la luxure. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. Tout l'argent du monde ne vaut rien. On peut acheter des choses quand même. Tout l'argent du monde ne nous permet pas de mieux comprendre la Bible. Seul le Saint-Esprit peut nous ouvrir les yeux du cœur. Et nous comptons sur son œuvre encore ce matin. Nous poursuivons la série de prédications sur les 12 derniers livres de l'Ancien Testament. Nous avons déjà rencontré Abdias. Vous vous souvenez d'Abdias ? Abdias qui nous parlait du jugement des Édomites pour nous dire que le jugement est certain pour tous ceux qui ne se détournent pas du mal. Joël, avec ses sauterelles et le jour de l'Éternel, nous a appris comment réagir face aux catastrophes naturelles par la repentance et en comptant sur la promesse de restauration de Dieu. Jonas nous a présenté un récit véridique qui nous parle d'un Dieu compatissant qui veut que nous le devenions aussi. Et aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec Amos. Amos qui va nous indiquer que Dieu rugit contre la fausse sécurité d'un peuple injuste. Dieu rugit contre la fausse sécurité d'un peuple injuste. Alors, Amos vivait en fait à la même époque que Jonas. Ce sont des années glorieuses politiquement et matériellement pour le royaume du Nord. Israël a pu agrandir son territoire et surveille les routes commerciales qui leur apportent la richesse. C'est un temps de paix où les cérémonies religieuses sont vécues avec un maximum d'éclat, croyant être bénis par Dieu. Mais les succès politiques, la prospérité matérielle, une civilisation développée et une vie religieuse active fait ressembler Israël à une corbeille de beaux fruits, comme cela est dit dans Amos 8, verset 1. Mais ces fruits sont véreux et pourris. Le succès politique, la prospérité matérielle, une civilisation développée et une vie religieuse active fait ressembler Israël à une corbeille de beaux fruits. Mais ces fruits sont véreux et pourris. Ils n'aiment pas l'Éternel de tout leur cœur. Leur culte n'est que formalisme.
C'est quoi le formalisme ?
C'est s'attacher uniquement à la forme, en fait. C'est s'attacher à ce qu'on voit. Donc le culte n'est que formalisme et rempli de pratiques, certes jolies, mais corrompues et empruntées au monde païen. Ils n'aiment pas leurs prochains comme eux-mêmes. Les riches oppressent et exploitent les pauvres. Les juges sont corrompus. L'immoralité sexuelle règne. La prospérité matérielle d'Israël l'a conduit à la pauvreté spirituelle. Le bilan du point de vue de Dieu du roi Jéroboam à l'époque d'Amos est terrible. Dans 2 Rois 14, verset 23, il est dit « La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, régna comme roi d'Israël à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. » Un bilan terrible. On n'aimerait pas entendre un bilan de cette manière de la bouche de Dieu. Et Amos transmet le rugissement de l'Éternel face à son peuple pour lui rappeler que ce n'est pas parce qu'il l'a choisi qu'il peut vivre n'importe comment et qu'il sera jugé comme les autres nations à moins d'une repentance. Or certains ont appelé Jean-Baptiste dans son infatigable appel à la repentance l'Amos des derniers temps parce qu'en fait il annonçait le même message. Un commentateur dit que chaque fois que le Nouveau Testament proclame que Dieu est le juge de toute chair, que tous les hommes devront comparaître devant lui, et chaque fois il montre le lien indestructible qui unit le culte et la vie chrétienne, il se fait l'écho d'Amos. Alors, le décor est posé. Nous allons maintenant nous intéresser au message d'Amos, que je partage en trois parties selon la logique du livre. Il commence par annoncer un jugement des autres nations autour d'Israël, pour ensuite arriver aux tribus du Nord comme le centre d'une cible. Il fait le tour, hop, jusqu'au centre de la cible du rugissement, du jugement transmis par le prophète. Un autre premier point sera intitulé « Le rugissement du jugement ». Ensuite, les chapitres 3 à 6 d'Amos expliquent ce que l'Éternel reproche à Israël. Et souvenons-nous, dans la Bible, lorsqu'un jugement est annoncé et que les raisons sont évoquées, c'est un avertissement pour appeler à la repentance. Même si c'est pas dit explicitement, c'est toujours un appel à la repentance. Donc, notre deuxième point s'intitulera le rugissement d'avertissement. Et le livre d'Amos se termine par des visions qui indiquent que le jugement de Dieu est juste, mais qu'il promet un renouveau. Notre troisième point, qui couvre les chapitres 7 à 9, est intitulé le rugissement du juste qui n'abandonne pas son peuple. Alors, pourquoi j'ai parlé de rugissement? C'est parce que c'est un terme qui est dans Amos 1, et le livre d'Amos parle quelquefois de lion. Pour parler du rugissement du lion, qui quelque part fait aucun bruit jusqu'à ce qu'il soit vers sa proie. Et là, il rugit, la proie est terrorisée. Et puis, bon appétit. Donc, le rugissement de Dieu, c'est un avertissement pour entrer dans la repentance. Alors, Amos, un éleveur pépiniériste, vient de Juda. Il est envoyé par Dieu au nord. Alors, afin de capter l'attention et en même temps enseigner que toutes les nations doivent rendre des comptes à Dieu, Amos parle des jugements de Dieu sur les autres. Cela nous indique également ce que Dieu n'aime pas. Alors, il a toute une liste. Les atrocités de massacres commises par la Syrie sont condamnées. Le trafic humain d'esclaves amène le jugement sur les Philistins. La rupture d'alliance ou la déloyauté avec le peuple de Dieu place la Phénicie, la ville de Tyr, sous le jugement. La haine tenace de génération en génération, depuis Ésaü, amène le jugement sur Édom, comme on l'a d'ailleurs déjà vu avec Abdias. Les avortements et infanticides de Ammon, descendant de Lot, neveu d'Abraham, placent les Ammonites sous le jugement de Dieu. Et la profanation des morts commis par les descendants de Moab, deuxième enfant de Lot, appelle le jugement. C'est vrai que nous n'aimons pas parler de jugement. Nous n'aimons pas parler du jugement de Dieu, car cela nous place devant notre responsabilité. C'est pourtant ce qu'Amos fait, guidé par le Saint-Esprit. Nous n'aimons pas parler du jugement de Dieu, car cela nous place devant notre responsabilité. C'est pourtant ce que fait Amos, guidé par le Saint-Esprit. Et toutes les raisons de jugement que nous avons vues jusqu'à maintenant, ces atrocités, trafic humain, etc., sont encore aujourd'hui des raisons de jugement de Dieu. Et la seule manière d'échapper au jugement de Dieu, c'est la repentance, comme à l'époque d'Amos. Mais nous avons un avantage. C'est que nous connaissons l'évangile de Jésus-Christ. Alors qu'il ne le connaissait pas encore du temps d'Amos, alors qu'il était en germe. Amos a parlé des autres peuples. Et il continue en parlant de Juda, d'où il vient d'ailleurs. Là, il ne parle plus d'un péché en lien avec la guerre ou des actes commis contre son peuple, mais en lien avec la loi de l'Éternel. Juda fait partie du peuple de Dieu, même s'il est séparé du royaume du Nord à ce moment-là. Et il est jugé pour sa désobéissance à la loi de Dieu. Alors jusque-là, les auditeurs d'Amos au Nord, étaient tout à fait d'accord avec lui. Il a raison, Amos. C'est normal que Dieu les juge avec tout ce qu'ils ont fait de mal. Et alors, Amos pousse le rugissement du jugement d'Israël. La justice n'est plus rendue. Le pauvre est méprisé. La convoitise est partout. La justice est corrompue. L'immoralité sexuelle est vécue. Le syncrétisme fait partie du culte. L'idolâtrie est monnaie courante. Et pourtant, Dieu l'avait délivré de l'esclavage d'Égypte. Pourtant, il lui a donné un bon pays dans lequel il lui a parlé par les prophètes. Mais ce peuple a détourné les personnes consacrées en les faisant boire de l'alcool. Et ils ont interdit aux prophètes de transmettre la parole de Dieu. Toutes ces choses appellent le jugement de Dieu. Et personne ne peut y échapper par lui-même. Personne. La seule issue, c'est la repentance, c'est revenir à Dieu qui pardonne tant qu'il le fait encore. Nous pouvons aussi écouter le jugement de Dieu sur le monde autour de nous, en nous disant que ce monde qui rejette Dieu mérite bien d'être jugé. Mais est-ce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas meilleurs? Nous avons autant besoin de repentance, de reconnaître notre hypocrisie, notre injustice, notre orgueil, notre égoïsme. Alors lorsque nous entendons parler de jugement, ne cherchons pas à faire taire la personne qui en parle, mais que cela nous pousse à revenir à l'Éternel et à nous repentir de tout mal. Et là, ce jugement, ça c'est la nouvelle extraordinaire de l'Évangile, hein, ce jugement tombe sur Christ et plus sur moi. Mais j'espère que c'est le cas pour chacun, que Dieu nous guide. L'annonce du jugement est un appel à la repentance. Amos, dans le chapitre 3 à 6, va dénoncer plusieurs pratiques qui sont pour nous des avertissements, qui nous aident à comprendre ce que Dieu n'aime pas et par conséquent, il aime l'inverse. Donc c'est notre deuxième point, le rugissement d'avertissement. Et Amos dénonce plusieurs choses. Vous comprenez que en une prédication, 9 chapitres, c'est long. Donc on va parler de 3 choses uniquement que Amos dénonce. La première, il dénonce l'injustice sociale. La deuxième chose que nous verrons, c'est qu'il dénonce la religion corrompue. Et troisième élément, il dénonce le sentiment trompeur de sécurité. En commençant par l'injustice sociale. Amos annonce le malheur des riches qui, par leur amour de l'argent, se mettent sous le jugement de Dieu et pratiquent ce qu'on appelle l'injustice sociale. Comprenez bien que c'est l'amour de l'argent le problème. Nous y reviendrons. Et là, je vais simplement vous donner quelques éléments de comment ils le font en vous lisant directement les textes dans Amos. Comme ça, vous verrez que c'est dans le texte. Premièrement, ils s'enrichissent par des moyens cruels. Amos 3:10, ils entassent dans leur donjon les produits de la violence et de la rapine. Amos 8:4, écoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre et supprimez les malheureux du pays. Deuxièmement, faire de l'argent pour eux est ce qui est le plus important. Écoutez Amos 8, verset 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera passée, afin que nous vendions nos denrées? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Ouais, maintenant on ouvre la Migros le dimanche. Troisième élément, ils sont impitoyables dans leurs transactions. Amos 8, 5b. Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Nous achèterons les indigents pour de l'argent, les pauvres pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. L'amour de l'argent. Quatrième élément, ils entretiennent des rapports corrompus avec la justice. Amos 5, 7, vous qui changez le droit en absinthe et qui jetez à terre la justice. Élément suivant, ils empriment, rançonnent et écartent les pauvres. Amos 5, 12 à 14, car je le sais, vos crimes sont nombreux et vos péchés énormes. Vous opprimez le juste, vous le rançonnez et vous, à la porte, vous évincez les pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, l'homme intelligent se tait, car ses temps sont mauvais. Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous comme vous le dites. L'amour de l'argent est terrible. Et Amos dénonce quelque part toute cette injustice sociale. Et en fait, l'épître de Jacques en fait écho. C'est le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Jacques 5, quand il a dit « À vous maintenant les riches, pleurez à grands cris à cause du malheur qui viendra sur vous. Vos richesses... Votre richesse est pourrie, votre vêtement est mité, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élève en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les mauvais. » Comprenez toujours, c'est l'amour de l'argent. Hein? « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. On fait du boulot pour nous, on paye pas. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans la volupté et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste. Il ne vous résistera pas. » comprenez d'où vient le problème. Je l'ai déjà dit deux fois au moins. C'est 1 Timothée 6:10 hein, qui nous donne cette clé, qui le dévoile et qui dit, qui nous donne le chemin à suivre. 1 Timothée 6:10 dit car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Verset suivant. Maintenant, voilà, dans la bonne direction. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Il n'est pas possible d'aimer Dieu et le monde. Si nous aimons Dieu, soit nous aimons Dieu, soit nous aimons le monde. On l'a vu dans 1 Jean, vous pouvez relire. Nous pouvons aussi transposer à l'argent. Si soit nous aimons l'argent, soit nous aimons Dieu. Car Jésus a dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Soit Dieu, soit Mammon. Alors que l'Éternel nous garde de l'amour de l'argent. Et qu'il nous donne la grâce d'utiliser l'argent que nous avons de manière à le glorifier, à aider les pauvres et à agir avec justice. Ça, c'est ce que le message d'Amos aimerait faire parvenir, hein, c'est l'objectif. Que l'Éternel nous garde de l'amour de l'argent, qu'il nous donne la grâce d'utiliser l'argent que nous avons de manière à le glorifier, à aider les pauvres et à agir avec justice. Alors, Amos dénonce l'injustice sociale de manière plus extensive dans le livre. On pourrait prendre maintenant beaucoup de temps pour le développer longuement, avec beaucoup d'applications pour aujourd'hui. Mais je pense qu'on a pu comprendre le principe. Fuyons l'amour de l'argent. Fuyons l'amour de l'argent. Si jamais il y avait l'histoire de ces vaches du Bazan là, hein, qui disaient au mari, allez chercher de l'argent, etc. Et puis mangeons et buvons. Hein. C'est l'amour de l'argent qui pose problème. Passons maintenant à la religion corrompue. Deuxième domaine. Leurs cérémonies sont égocentriques et très éloignées d'une adoration pure de Dieu. Amos 5, vous pouvez regarder dans vos Bibles, Amos 5, versets 21 à 24. C'est Dieu qui parle ici, ou qui rugit si vous voulez. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. En fait, des années plus tard, Ésaïe reprend la même chose. Peut-être c'est Ésaïe qui vous est venu en tête en entendant ce texte. Ésaïe 1 dit très clairement, « Qu'ai-je à faire des multitudes de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler les parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. L'encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats, aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. En fait, dans le culte que nous vivons aujourd'hui, une seule chose devrait nous motiver. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? C'est ça qui doit nous motiver. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? Ou dit autrement, on pourrait dire, comment désire-t-il être adoré? Comment désire-t-il être adoré? Il n'est pas question de chercher une convivialité, d'amuser les gens. Amuser les gens, c'est pas toucher le cœur de Dieu. Et se divertir n'est pas la même chose que de faire de Dieu nos délices. Il n'est nulle part question dans la Bible de tomber sentimentalement amoureux de Jésus. Nulle part. Mais il est question de réconciliation avec Dieu et d'un amour sacrificiel qui pratique les commandements de Dieu. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu, ceux qui aiment l'Éternel, se sentiront bien dans une adoration simple de l'Éternel. Ceux qui n'ont pas l'Esprit se sentiront mal à l'aise, car la présence de Dieu révèlent leur péché et leur perdition. Si quelqu'un qui n'est pas en Christ se sent bien quand on adore Dieu, où est Dieu? Et si tu es mal à l'aise face à l'annonce des jugements de l'Éternel, si cela te dérange ou pire encore t'irrite, as-tu l'Esprit de Dieu? Peut-être es-tu sur la voie qui mène à la mort. Repens-toi de ton péché et viens à Christ qui a payé le prix pour te délivrer du poids de ta faute. Un commentateur dit ceci, les cultes devraient être une réponse des cœurs à la hauteur de la dignité de Dieu. Les cultes devraient être une réponse des cœurs à la hauteur de la dignité de Dieu et une proclamation fidèle de sa parole. Une proclamation fidèle de sa parole, plutôt que des exercices qui chatouillent l'ego et les émotions des participants. Alors, les sentiments et les émotions font partie de nous, c'est sûr. Mais ce n'est pas notre objectif. Ils vont suivre, en fait, notre adoration. Et ils ne sont pas nos guides. Amos dénonce la religion d'Israël qui avait depuis Jéroboam 1, fils de Nébat, transformé l'adoration de l'Éternel en mettant en place des lieux de culte autres que le temple à Jérusalem et en faisant des veaux d'or représentant l'Éternel. Il faut bien comprendre, quand il y avait ces veaux d'or, c'était pas parce qu'ils rejetaient Dieu. Ils voulaient l'Éternel. Mais c'est le veau d'or qui le représentait. En fait, il rejetait les commandements de Dieu. Eh bien, que cet avertissement nous aide à ne chercher à faire quelque chose, pas faire des choses jolies aux yeux du monde pour impressionner les sens, mais que nous cherchions à adorer Dieu comme lui le veut. Adorer Dieu comme lui le veut. Amos souligne encore la fausse sécurité du peuple. Nous trouvons ça particulièrement dans le chapitre 6. Donc, si vous êtes dans Amos 6, on aura plusieurs éléments qui viennent de ce chapitre. Commence par « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grands de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. » En fait, la richesse matérielle fait croire aux Israélites qu'ils sont bénis. La richesse matérielle, on a tout ce qu'il faut. Vous avez déjà entendu ça quand on annonce l'évangile à quelqu'un? La richesse matérielle fait croire aux Israélites qu'ils sont bénis, mais ils sont comme l'insensé dont parle Jésus dans Luc 12. Ils sont comme l'insensé dont parle Jésus dans Luc 12. Je vous lis simplement ce que Jésus dit. Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands, et j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc Amos souligne cette notion. Amos souligne encore l'absence de guerre qui fait monter à la tête du peuple l'orgueil de croire qu'il maîtrise la situation. On est en paix, c'est parce que on est tellement bon politiquement. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis la puissance? Amos 6, 13. Ils vont même jusqu'à désirer le jour de l'Éternel. Tellement ils sont convaincus que ce sera leur couronnement, leur gloire. Oh, que le jour de l'Éternel vienne! Vous souvenez-vous des trois termes à ne pas oublier lorsque nous parlons du jour de l'Éternel? Trois termes. Jugement, libération, application. Les trois termes qu'on doit avoir en tête pour avoir un équilibre dans la compréhension du jour de l'Éternel. Le peuple d'Israël n'avait retenu que libération. La libération du peuple de Dieu. Et ils avaient oublié le jugement des méchants ainsi que l'application de la loi de Dieu. Voilà pourquoi Amos dit, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Israël ne peut pas s'appuyer sur son élection, pour vivre sans Dieu et revendiquer la liberté. Non, on peut pas faire ça. Israël ne peut pas s'appuyer sur son élection, alors je suis élu de Dieu, hein, et vivre sans Dieu et revendiquer la liberté. Non, c'est pas possible. Et que Dieu nous garde de ce sentiment de trompeur de sécurité. Ce n'est pas parce que nos parents ou grands-parents ont été sauvés par Dieu que nous le sommes. Ce n'est pas parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin matériellement que nous sommes bénis et assurés du salut. Ce n'est pas parce que nous ne vivons pas dans des conflits ouverts que nous maîtrisons la situation. En fait, ce n'est que lorsque nous cherchons l'Éternel que nous vivons. C'est lorsque nous cherchons le bien et non le mal que nous vivons. C'est lorsque nous vivons dans le droit et la justice que seul Christ peut nous donner que nous vivons. C'est Jésus-Christ notre délivrance et rien d'autre. Pas l'argent. Bon, le dimanche matin, assis ici, vous allez dire c'est évident. Ouais, mais moi je parle de la semaine. Terminons ce survol du livre d'Amos avec les trois derniers chapitres que l'on verra extrêmement rapidement, que j'ai intitulé « Le rugissement du juste qui n'abandonne pas son peuple ». Amos est face à quatre visions qui manifestent le jugement de Dieu et il termine par la promesse de restauration. Alors je vais simplement souligner quelques aspects. Dans la première vision, Amos voit le jugement des sauterelles. Joël avait déjà parlé des sauterelles, vous vous souvenez peut-être, hein? Donc Amos 7, verset 2, « Et comme elles dévoraient entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne-nous donc. Comment Jacob subsisterait-il? Il est si petit. » Verset 3, « L'Éternel eut du regret. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. » Waouh! Mais quel encouragement! Dans tous ces jugements annoncés, la prière d'Amos, comme celle de Moïse, plus tôt dans l'histoire, incline le cœur de Dieu qui promet de ne pas activer le jugement à ce moment-là. Quel encouragement pour nous de prier pour notre pays, afin que l'Éternel prenne encore patience et que beaucoup se repentent. Amos veut nous encourager avec la deuxième vision, il veut souligner cet élément, hein, qui voit le jugement du feu. Verset 5, Amos 7, « Je dis Seigneur Éternel, « arrête donc! Comment Jacob subsisterait-il? Il est si petit. » L'Éternel eut du regret. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. L'Éternel aime écouter ses serviteurs fidèles. L'Éternel aime écouter ses serviteurs fidèles. Ils font partie de sa volonté, qui manifeste sa miséricorde, sa patience, sa lenteur à la colère. Lorsque vous priez, demandez à Dieu de ne pas exercer le jugement et qu'il répond, vous faites partie de sa volonté. Mais dès la troisième vision, le prophète ne peut plus rien. Parce que la justice va s'accomplir, le fruit est mûr. Personne du royaume coupable n'en échappera. Mais, et je suis tellement reconnaissant que, il y a le chapitre 9 à partir du verset 9 dans ce livre d'Amos. Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob, oracle de l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je ferai secouer la maison d'Israël par toutes les nations, comme on est secoué par le crible, sans qu'il en tombe à terre une seule parcelle. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, eux qui disent, tu ne feras pas approcher le malheur, tu ne le feras pas arriver jusqu'à nous. En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, j'en préparerai les brèches, j'en relèverai les ruines, et je rebâtirai comme elle était autrefois. Quel rafraîchissement! Mais quel rafraîchissement! Si les pécheurs meurent, Dieu ne détruit pas tout. Il promet une restauration, un relèvement. La cabane de David ne sera jamais détruite. Il fallait un descendant éternel, et cette cabane chancelante, relevée par l'Éternel, permettra la venue de Jésus-Christ, qui nous permet à nous d'être sauvés, qui nous permet à nous, pécheurs, d'être justifiés par Jésus-Christ. On n'est jamais mieux que les autres pécheurs. Si vous pensez ça un jour, ça s'appelle l'orgueil, et c'est un péché. Bon, ben, repentons-nous. Lorsque Dieu rebâtit, c'est simplement merveilleux. Lisez avec moi les derniers versets du livre d'Amos, chapitre 9, verset 13. « Voici les jours viennent, oracle de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes, et où toutes les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. » Et c'est une petite image avec des termes que nous pouvons comprendre par rapport au bien-être, à l'abondance et à l'abondance de saveurs qui nous aident à comprendre le nouveau, les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui est devant nous, après le jour de l'Éternel, terrible pour les pécheurs non repentants, mais annonçant le renouvellement pour le peuple de Dieu qui sera libéré et qui vivra dans un contexte où la loi de Dieu sera parfaitement appliquée. On arrive à la fin de ce livre d'Amos, et ce petit parcours qui nous a fait entrer un peu dans ce livre qui est extrêmement riche, nous a permis de voir trois choses particulièrement. Que le jour de l'Éternel est un jugement pour les pécheurs non repentants. Alors, repentons-nous, et le jour de l'Éternel sera le jour de la libération et de l'application de la loi. Deuxième point, nous sommes avertis à ne pas pratiquer l'injustice sociale, ni la religion corrompue, ni de nous appuyer sur des fausses assurances, mais de vivre selon Dieu et nous appuyer sur Jésus-Christ. Et troisième élément, si Dieu juge, il n'abandonne pas son peuple, et nous pouvons nous réjouir de ce qu'il bâtit pour ceux qui sont sauvés par Christ. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, il est vrai que notre monde qui veut que toutes les choses soient dites positivement, enfin sauf quand on parle de toi, eh bien nous pousse à ne plus avoir l'habitude de parler de jugement ou d'en entendre parler. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à ne pas avoir peur de ces paroles de jugement, parce que tu nous donnes ce réflexe, lorsque nous les entendons, de nous tourner vers toi, de saisir que tu es un Dieu qui fait réellement justice, de saisir que si tu annonces le jugement, c'est que tu désires que nous nous repentions et que nous annoncions autour de nous aussi la repentance, afin que beaucoup puissent être sauvés. Ô Seigneur, donne-nous cette grâce de comprendre que tu nous donnes dans ta parole, aussi dans tous ces jugements, des lignes de conduite utiles pour nos vies de tous les jours. Le fait de ne pas aimer l'argent, mais de l'utiliser en étant soumis à toi. De ne pas chercher à vivre le culte d'une manière qui nous plaît, nous, ou bien qui plaît au monde, mais qui te plaît à toi. Parce que c'est là que tu nous permets ensuite de vivre cette adoration paisible, profonde, avec toi. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu dis dans ce texte, et nous le voyons dans Romains aussi, que tu n'abandonneras jamais ton peuple. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Et cette promesse, Seigneur, nous aide aussi à faire face à ce jour de l'Éternel qui peut nous paraître, c'est vrai, difficile et énorme, mais en même temps qui est un moment de gloire où tu vas manifester clairement ta sainteté et nous pourrons nous en réjouir cachés par Christ et nous réjouissant de son œuvre parfaite. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.